Je vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, comment allez-vous aujourd'hui? Couvre-feu, distanciation physique et visite restreinte, toutes mesures se prolongent en raison de la situation sanitaire encore alarmante. Ce nouveau normal affecte directement les plus vulnérables d'entre nous, eux et leurs proches aidants. Nous voulions nous attarder aujourd'hui à Je vote pour la science à ces personnes proches aidantes. La pandémie a eu un impact plus drastique sur leur vie, leur dévouement, mais aussi leur santé physique et psychologique. Un sondage du regroupement des aidants naturels du Québec en août dernier a montré qu'une personne sur deux a avoué manquer de ressources et une personne sur trois ne pouvait compter sur aucune forme de répit. Plus, un aidant sur quatre s'est dit plutôt dépassé par ce qu'il ou elle vivait au moment du sondage. 6 mois après le sondage, on avait envie de se demander comment vont les personnes aidantes. Car cette personne aidante, c'est peut-être vous ou moi. Restez à l'écoute. Mesures sanitaires, éloignement physique et couvre-feu, tous les gestes barrières ont un impact sur notre vivre ensemble. Mais qu'en est-il du quotidien des personnes proches aidantes? Nous en parlons avec Magali Dumas, directrice générale adjointe de l'appui pour les proches aidants. Bonjour.
Bonjour.
Et Sophie Etier, chercheuse et professeure titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Bonjour.
Bonjour.
Les personnes les plus vulnérables et les malades reposent sur l'entraide et un filet social plus ténu en temps de pandémie. De nombreux organismes communautaires ont dû réviser leurs services en les donnant à distance ou en les réduisant au minimum. Ces mesures affectent directement le quotidien des personnes proches aidantes. Alors concrètement, comment vivent-elles cette période de pandémie? Peut-être Madame Dumas?
Oui, mais en fait, déjà, ça va faire presque un an qu'on est dans ce régime pandémique. Donc, il y a eu les effets de la première vague, puis là, maintenant, des effets d'une deuxième vague qui s'estompe. Mais je dirais qu'il y a quand même une différence notoire, entre autres avec la première vague, où l'ensemble des services à domicile ont été freinés abruptement pendant minimalement 6 à 7 semaines avant que les services à domicile soient décrétés comme étant des services essentiels. Donc, évidemment, les premières semaines de la pandémie ont durement touché les services. Évidemment, il y a encore aujourd'hui des services qu'on ne revoit pas. Évidemment, ça va de soi. Tous les services de répit de formule halte ou centre de jour ou de répit de groupe, évidemment, ces services-là n'ont pas repris. Toutefois, les services en individuel, d'aide domestique, d'entretien ménager, tout ça est revenu au début de l'été dernier. Donc, on constate quand même une différence notoire entre la première vague et maintenant.
Il y a eu plusieurs types de proches aidants aussi, donc plusieurs réalités, n'est-ce pas?
Tout à fait. Proche aidant d'aîné, proche aidant de son enfant, proche aidant d'un adulte majeur mais pas aîné. Tout dépendant aussi, comme proche aidant, quel statut on a. Est-ce qu'on est un travailleur? Est-ce qu'on est à la maison? Est-ce qu'on a des enfants qui ont été aussi avec nous dans la bulle familiale parce que l'école a arrêté et où il fallait conjuguer pour plusieurs proches aidants la parentalité, la proche aidance, le contexte de travail et cette nouveauté de mesures sanitaires et de changement de la vie quotidienne. Donc, évidemment, toutes sortes de personnes ont vécu toutes sortes d'effets différents selon, évidemment, la nature de leur solidarité familiale et de leur bulle de famille.
Oui, on parle de beaucoup de proches aidants, mais c'est aussi beaucoup de proches aidantes, beaucoup de femmes.
Oui. Et malheureusement, la charge mentale, les choses ont beaucoup évolué là, tout de même dans les dernières années dans le partage des rôles hommes-femmes, mais la statistique demeure, là, c'est une majorité de femmes qui exercent la proche aidance par rapport aux hommes. On est dans un ratio, tout dépendant des études, entre 75 et 80 % des femmes. Donc, évidemment, cette charge mentale-là d'être mère, travailleuse, proche aidante, a vécu des pointes probablement jamais connues pour beaucoup d'entre elles.
Oui, il y a eu un sondage du regroupement des aidants naturels du Québec en date d'août dernier. Une personne sur deux a avoué manquer de ressources et une personne sur trois ne pouvait compter sur aucune forme de répit. Rappelez-nous un petit peu quelles sont les principales difficultés.
Bien, en fait, tout dépendant, comme je vous dis, ça va dépendre de la structure familiale, mais si on a perdu son emploi, qu'on a perdu ses revenus réguliers et qu'en plus, on avait une charge supplémentaire de proche aidant avec peu de services, ça commence à faire beaucoup de choses négatives ou qui ont un potentiel d'amener des aspects négatifs autant dans notre vie personnelle que dans notre vie d'aidante ou de parent. Évidemment, bon, comme je le disais, ces difficultés financières-là, l'absence de services, se réorganiser. Les proches aidantes et les proches aidants sont très bons là-dedans, se réorganiser et penser vite. Mais là, quand la structure de soutien autour de nous n'est pas là pour nous accompagner dans cette période-là, les difficultés souvent se multipliaient, là. Évidemment, je pense qu'une des catégories de personnes proches aidantes qui s'en sont probablement, entre guillemets, un peu mieux sorties que les autres, c'est celles qui étaient déjà très bien organisées avant. Et d'autre part, ceux qui ont des entourages familiaux très sensibles à leur cause. Soutenant, j'ai entendu une belle histoire, moi, au service info-aidant d'une dame qui vit avec sa mère. Elle a 5 et 6 frères et sœurs. Et comme ça, ben, tout au long de la semaine, ben, maman, la dame, elle accompagnait sa mère. Donc, elle avait un rendez-vous téléphonique avec chacun de ses enfants 1 heure par jour. Ben, c'était le moment où la proche aidante principale allait prendre son bain, faisait un soin pour elle, allait marcher seule, se ressourcer. D'autres ont pu bénéficier, exemple, de la préparation de repas qui était par d'autres éléments de la famille qui sont venus porter à la maison. Donc, voilà, ces solidarités familiales-là aussi autour de la bulle principale de la personne proche aidante et de la personne soutenue, ben quand il y avait des gens beaucoup plus dédiés à aider la personne proche aidante, ça l'a fait aussi une grande différence.
Oui, évidemment. Professeur Etier, la pandémie a montré, a mis en lumière le rôle essentiel des proches aidants. Il y a eu la première loi québécoise, je pense, sur la reconnaissance des proches aidants qui a été adoptée en pleine pandémie.
Oui, ben en fait, la loi était prévue pour être adoptée avant, donc la pandémie a retardé en fait son adoption. Ah. Mais finalement, c'est passé là, le 28 octobre dernier. Donc, on a maintenant la première loi québécoise là, sur la reconnaissance et le soutien des proches aidants donc, au Québec. Et il suivra dans les 6 mois suivant l'adoption de la loi là, la politique nationale et ensuite le plan d'action dans les 6 autres mois. Donc, d'ici octobre prochain, là, on devrait avoir là, la politique et le plan d'action qui va vraiment démontrer là, comment on va appliquer l'ensemble des mesures là, qui sont dans la loi. Là.
On parle de quel genre de mesures et pourquoi c'est important d'avoir cette loi-là? Au Québec.
Mais en fait, le but vraiment de la loi, c'est de reconnaître le rôle des proches aidants. Et je pense que ça demeure essentiel parce que si on reconnaît leur rôle, on va les soutenir et on va mettre en place des mesures réelles pour les soutenir, c'est-à-dire du répit, c'est-à-dire bon, de répondre à leurs besoins. Ça fait des années, par exemple, qu'on demande là, à ce que les proches aidants soient évalués, que leurs besoins soient évalués. Parce qu'actuellement, dans le réseau de la santé, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a un dossier qui est ouvert lorsqu'on demande de l'aide parce que tous les aidés n'ont pas nécessairement un dossier là, dans le réseau de la santé. Mais si les proches aidants demandent de l'aide, le proche aidé a un dossier d'ouvert et on évalue les besoins du proche aidé et on regarde qui peut répondre aux besoins, en particulier le proche aidant. Donc, on voit ce que le proche aidant peut faire pour l'aider et ce que le proche aidant ne peut pas faire. On essaie de combler ça avec les ressources autour. Mais jamais on évalue les besoins du proche aidant et son besoin de service à lui. Là. Donc, il y a quelques services qui sont dédiés au proche aidant, mais qui sont des services de répit essentiellement et qu'on offre bon, par le réseau de milieu communautaire plus particulièrement. Là. Donc, on va entre autres, dans cette loi-là, prévoir là, l'évaluation probablement des besoins des proches aidants. On va prévoir le partenariat proche aidant, aidé et réseau de la santé, réseau communautaire. Donc, on va organiser un peu mieux, en fait, les services autour de ce proche aidant.
Oui, il va se sentir un peu plus aidé et soutenu, finalement.
Oui,
Les proches aidants sont nombreux et nombreuses à s'être adaptés donc à ce nouveau contexte en utilisant notamment les technologies. Quels ont été les principaux changements et adaptations, Madame Dumas?
Bien, je dirais qu'il y a deux niveaux. Le premier étant celui des offreurs de services, donc les organismes comme tels qui avaient d'ordre général un regroupement pour aidants ou un centre d'action bénévole ou peu importe, qui avaient des groupes, à titre d'exemple, un café rencontre pour les personnes proches aidantes. Bien, ils ont toujours organisé ça, organisé ces services-là en présence. Donc, oui. Il y avait d'abord que les offreurs de services tournent leur technologie, s'installent dans des nouvelles formules de dispensation. Donc, et à la suite de ça, ben, tout dépendant de la clientèle, je vous donne un exemple, si on fait un café-rencontre de proches aidants, de personnes aînées, un café-rencontre à côté de parents qui accompagnent, à titre d'exemple, un enfant qui a une problématique TSA, du trouble du spectre de l'autisme, ben, généralement, c'est sûr que les clientèles plus jeunes ont une facilité d'adaptation aux nouvelles technologies. Mm-hmm. Par contre, les services pour les personnes aînées, et je ne suis pas en train de faire de l'âgisme du tout, puis d'ailleurs, c'est une fausse croyance de penser que les aînés sont pas à l'aise avec les technologies, elles le sont de plus en plus. Fait qu'il y a eu de l'adaptation vraiment des deux côtés, autant chez les offreurs de services que ceux qui reçoivent, que les personnes proches aidantes qui reçoivent les services. Mais il y a eu quand même beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup d'avancées. Si on parle aujourd'hui par rapport à il y a un an, le niveau d'aisance de tout le monde est beaucoup plus grand, mais ça reste quand même que les contacts humains et sociaux, ben ça, on n'a pas encore probablement retrouvé toute la finesse qu'un café-rencontre en présence peut permettre.
Oui, c'est sûr.
Évidemment.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca.
À propos des mesures sanitaires, est-ce que c'était bien compris? Est-ce qu'il y a eu un petit peu d'anxiété par rapport à tout ça? Est-ce que tout le monde est capable justement d'intégrer ça dans sa routine de proche aidant?
Bien, quand on est à domicile, je pense qu'il n'y a pas trop d'enjeux. Je vais peut-être laisser professeur Etier ensuite oui. rebondir sur mon propos, mais quand on est à domicile, bon, bien là, c'est qu'on a eu probablement des effets délétères de ça, c'est-à-dire que les proches aidants, plusieurs d'entre eux, ont fermé hermétiquement la bulle du domicile par crainte. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas au même endroit qu'avant. On a appris un peu plus, le port de ces EPI-là, les équipements de protection individuelle. Bien, maintenant, on les comprend bien et tout. C'est sûr qu'au début, on ne connaissait pas non plus le virus, puis tout le monde n'est pas scientifique à la maison. Donc, ça a pris bien du temps, mais les proches aidants ont eu la tendance au repli, beaucoup systématique, à faire de leur domicile des bulles très serrées, ce qui a donné lieu à des situations, bien, on comprend pourquoi on veut protéger, mais parfois, il a fallu, nous, à titre d'exemple, à Info Aidant, travailler beaucoup avec des personnes proches aidantes pour les inviter à réaccueillir le répi, puis les services d'aide domestique, parce qu'elles étaient en train d'y laisser leur santé, là.
Oui. Professeur Etier, ces bulles-là?
Oui, en fait, ce que je voulais dire, moi, là-dessus, c'est que les consignes ont été, évidemment, tout le monde l'a dit, là, changeantes rapidement dans les premières semaines, les premiers mois. Et c'est clair que c'était pas toujours clair là, pour les proches aidants. Puis d'ailleurs, le meilleur exemple de ça, c'est quand on a fermé là, l'accès au CHSLD, là, aux proches aidants. Et après, on leur a permis d'y retourner. Mais là, il y a eu une grande confusion par rapport à qui est un proche aidant exactement. Là. Au début, le gouvernement, M. Legault, parlait là, d'aidants significatif. Là, personne ne se reconnaissait là-dedans. Qu'est-ce qu'un aidant significatif? Là, après, on a dit les aidants qui ont l'habitude d'y aller. Donc, ça a créé toutes sortes de confusions et toutes sortes de problèmes là, à l'égard de cette consigne-là en particulier. Et après, on a eu les consignes là, par rapport au couvre-feu. Et on a eu des exemples là, de proches aidants actuellement qui ont reçu des contraventions parce qu'ils ont circulé à l'extérieur du couvre-feu pour aller donner de l'aide finalement à des personnes à la maison, là, à domicile. Donc, on doit se déplacer parfois le soir pour aider sa mère à aller se coucher, par exemple. Il est passé 8 heures, donc on a une mauvaise compréhension là, au niveau des services policiers, au niveau là, peut-être des consignes gouvernementales par rapport à au droit de ces personnes-là de se déplacer. Et actuellement, elles peuvent se déplacer, les proches aidants peuvent se déplacer avec une lettre, mais une lettre qui provient du réseau de la santé. Donc, c'est un peu complexe à faire signer cette lettre-là, à être reconnue par un professionnel qui peut la signer. Donc, tout le monde n'a pas nécessairement accès à ces professionnels-là. Donc, c'est encore pas tout à fait... c'est encore compliqué là, pour certains proches aidants d'exercer leur rôle là, avec les consignes actuelles.
Oui, tout
puis
fait.
J'ajouterais peut-être que la diversité aussi rencontrée dans les milieux de vie, on parle domicile, mais on parle aussi des résidences pour personnes âgées, les CHSLD, les zones rouges, les zones oranges, une personne sur 24 heures, deux personnes. Là, on revient test, on teste COVID ou on teste pas COVID. Donc voilà ce qui a donné lieu aussi à certains écarts dans des milieux de vie, entre autres, où, permettez-moi l'expression, on en a fait plus que le client demandait. Ce qui fait qu'il y a des milieux de vie qui ont été fermés excessivement hermétiquement sur des bases parfois arbitraires et qui faisaient peu cas finalement de la santé psychologique des personnes, autant les personnes proches aidantes que les personnes aidées. Hein.
Oui. Chaque milieu a en fait interprété les consignes un peu à sa façon, ce qui fait que c'était pas pareil partout. Donc, ça complexifie encore plus la compréhension pour les proches aidants.
Là. Oui, puis même si on a beaucoup de littératie scientifique, des fois, on est mêlé pareil d'un côté et de l'autre. Ça manque un peu de flexibilité aussi pour certains problèmes. Le côté sombre de la médaille, c'est aussi une amplification de la maltraitance avec la pandémie. Professeur Etier, hein?
Oui, ben en fait, moi, je m'intéresse à la maltraitance envers les proches aidants. Donc, on entend beaucoup la maltraitance envers les personnes aînées, mais dans le contexte de pandémie, les deux types de maltraitance, en fait, sont présents, là, notamment du fait qu'on est dans des bulles fermées, des milieux fermés. Donc, on l'a vu avec la violence conjugale, hein, on l'a vu avec les enfants aussi, la violence familiale, dans la mesure où on est dans un milieu qui est malsain. Et que là, on est un peu coincé dans ce milieu-là. On n'a pas beaucoup d'accès à d'autres personnes autour. Ça reste que cette violence-là ou ces relations malsaines se déroulent à huis clos, là, et on n'a pas peu accès à ce qui se passe à l'intérieur. Donc, la violence ou la maltraitance qui existait déjà peut être exacerbée dans ce contexte-là, évidemment. Et donc, moi, la maltraitance qui m'intéresse, sur laquelle je travaille, c'est la maltraitance envers les proches aidants, dans la mesure où, pour moi, d'être un proche aidant, ça comporte trois grands risques. Donc, le premier étant l'isolement, le deuxième, l'épuisement et le troisième, la maltraitance. Et je travaille sur cette étude-là là, depuis 3 ans maintenant et on a déterminé là, qu'il y a comme 4 provenances ou 4 sources de maltraitance envers le proche aidant. Donc, premièrement, l'entourage, les membres de l'entourage, la famille, les amis, l'aidé. Qui peut être maltraitant envers son proche aidant, même si c'est intentionnellement, les institutions, donc via les règlements, les intervenants, les professionnels qui appliquent un certain nombre de normes, de règlements, tout ça, et le proche aidant lui-même qui peut aussi s'auto-négliger dans son rôle.
Donc, oui, de s'oublier
oui,
et puis d'en faire trop.
Ouais, s'imposer son rôle, avoir des propres jugements sur ses façons de faire, ne jamais croire qu'il en a fait assez, donc de toujours de se sentir coupable, etc. Donc, normaliser aussi la violence qu'il subit de la part du proche aidé ou de la part de l'entourage en se disant, c'est normal, il est malade, et c'est pas, il ne fait pas exprès, etc. Là.
Mm-hmm. Madame Dumas, votre organisme d'appui pour les proches aidants propose de l'aide justement pour ces personnes-là qui aident, de l'écoute. Est-ce que vous avez justement ce genre de témoignage-là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties depuis un an?
Oui, évidemment. Je prendrais d'abord le parti de dire qu'il y a un service disponible au Québec distinct, hein, qui est la ligne aide à but aîné dans le contexte. Et ces personnes-là peuvent aussi rejoindre des personnes proches aidantes qui se sentent en situation de maltraitance. C'est important de le dire.
Oui.
Toutefois, c'est sûr qu'en info aidant, nous entendons ce type d'histoire-là. C'est sûr de ce que le professeur Etier vient d'énumérer, l'épuisement a donné lieu parfois à des gestes entendus, évidemment, qui relevaient de la maltraitance, mais souvent non intentionnels. Et cette notion de culpabilité-là constante chez la personne proche aidante, ben, je vous le disais tantôt, hein, ceux qui ont fait des bulles hermétiques de surprotection, ben, et dans ce que le professeur Etier disait, la famille, les aidés, les personnes aidées, les institutions et la personne elle-même, souvent, ben, on a entendu des situations où la personne aidante devenait un peu sa propre ennemie. Par ce sentiment de devenir un super cerveau qui gère tout, qui pense à tout, qui élimine tous les risques. On a entendu des histoires évidemment très déplorables de gens qui sont plus sur un épuisement dont on se sort rapidement. Là, il y a des phénomènes d'épuisement relativement intenses. On parle de sentiments dépressifs exacerbés. Évidemment, nous avons malheureusement entendu beaucoup de ces histoires à notre service info aidant.
Oui, il y a aussi différentes manifestations de la maltraitance. Pouvez-vous nous les rappeler, professeur Étier?
Bien, dans le cadre de notre étude, nous, ce qu'on a identifié là, avec les participants, donc c'est une recherche-action, donc on a travaillé en collaboration là, avec des proches aidants, des intervenants, puis on a ressorti en fait 7 manifestations de la maltraitance, et ces manifestations-là sont, ils peuvent être faites par n'importe laquelle des 4 provenances qu'on a nommées tantôt, donc l'aidant, l'aidé, l'entourage et les institutions. Donc, les 7 manifestations sont les suivantes. La première, c'est l'imposition du rôle de proche aidant. La deuxième, c'est le jugement sur les façons de faire du proche aidant. Le troisième, c'est la normalisation de son rôle ou encore la normalisation de la maltraitance subie dans l'exercice de ce rôle-là. La quatrième, c'est la dénégation de l'expertise de la personne proche aidante puis de sa contribution là, familiale et sociale. La cinquième, c'est la dénégation de ses besoins. On en a parlé un peu tantôt. La sixième, c'est l'utilisation de violences psychologiques, physiques, même sexuelles envers le proche aidant. Et la dernière, c'est la contribution à son appauvrissement. Donc, ces 7 manifestations-là se présentent là, même pour les 4 provenances qu'on
a. De l'entourage, de l'aider, des institutions et du proche aidant lui-même qui se finalement, en raison des fois de l'anxiété, va pas être son meilleur allié, c'est ça?
Oui, exactement.
Du côté de la santé physique et mentale, Madame Dumas, est-ce que les personnes proches aidantes vous ont rapporté un recul? Il y a eu ce sondage, là, je l'ai rappelé au début, mais est-ce qu'elles prennent soin de leur santé physique et mentale? Est-ce qu'il y a aussi peut-être de l'aide des institutions encore en temps de pandémie pour tout ça, pour veiller à ça?
Mais en fait, je pense qu'on a un constat de la population générale, hein, quand même, dont les personnes proches aidantes font partie quant à l'effritement de nos états de santé, autant mental, psychologique que physique. Les personnes proches aidantes n'y échappent pas, sinon qu'elles vont encore, ça va être encore pire à certains égards. Là. C'est sûr que si on a un proche aidé à domicile dont la mobilité est difficile, on ne sort pas marcher tous les jours, on a un frein supplémentaire. Comme toutes les personnes au Québec avec les règles sanitaires en place. Donc, je vous dirais qu'elles n'y échappent pas, sinon que probablement qu'elles ont des effets probablement plus prononcés à certains égards. Mais en même temps, c'est difficile ici de faire une grande généralité. Ça, c'est vraiment multifactoriel, ces états-là. Mais force est de constater qu'on a un très, très grand épuisement en ce moment chez les personnes proches aidantes.
Oui. Puis, c'est clair que la pandémie a contribué à détériorer l'état de santé général des personnes aidées par manque de stimulation, par manque de services, par manque de sortie, etc. Donc, dans la mesure où l'état de santé physique et mentale des aidés s'est détérioré, ben, c'est certain que l'état de santé mentale et physique des proches aidants va être affecté également. Là.
Oui, yes. Et je rajouterais peut-être à ça que dans une autre période de vie, cette dégradation-là de l'état de santé de la personne qu'on accompagne aurait peut-être mené à un hébergement. En ce moment-ci, on vient de rajouter un nouveau fardeau à la personne aidante, c'est-à-dire de prendre le choix de l'hébergement avec tout ce qu'on entend comme propagation dans les milieux de vie. Fait que là, il est vraiment coincé là, à plusieurs égards.
Oui, du côté justement du soutien en temps de crise en mode solution, que peut-on faire? Peut-être le gouvernement, plus largement nous, là, qui connaissons un proche aidant, pour aider les aidants.
Bien, on l'a dit tantôt, peut-être d'un point de vue gouvernemental, puis je laisserai probablement professeur Étier aller plus loin sur cette question-là. Il y a la politique qui va sortir, on espère, d'ici octobre de cette année, ma foi, en 2021. Un premier plan d'action qui deviendra plus soutenant. Mais entre-temps, il existe des services. C'est vraiment important que les personnes proches aidantes il y a des services qui peuvent se rendre à elles, peu importe leur contexte, d'organismes locaux, de services téléphoniques, la ligne aide à BNA, le service info aidant. C'est sûr que c'est plus difficile à rejoindre, mais quand ils ont des intervenants pivots, un travailleur social, je sais que c'est pas facile, mais il reste encore des gens. Là, on espère que cette fin de deuxième vague-là va éliminer certains délestages pour qu'ils puissent réavoir accès à leurs personnes phares dans le réseau de la santé. Mais une chose est certaine, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale sont en ce moment à pied d'œuvre et sont très créatifs et inventifs pour fournir des solutions aux personnes aidantes.
Oui, ouais,
tout à fait. Moi, je dirais trois choses. En fait, la première chose, il faut absolument que les proches aidants se reconnaissent comme proches aidants. Et ça, c'est difficile. Ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. Ça fait 30 ans qu'on dit la même chose. Les proches aidants ont de la difficulté à se reconnaître, à se nommer proches aidants. Et dans la mesure où ils ne se reconnaissent pas, ben, ils ne vont pas chercher l'aide qui leur est offerte. Et il y en a de l'aide. Donc, première chose, il faut que les proches aidants se reconnaissent. Sinon, si vous connaissez un proche aidant qui ne semble pas se reconnaître, ben, dites-lui que c'est un proche aidant. Aidez-le à se reconnaître comme tel. Ça, je pense que c'est la première chose, la reconnaissance. Deuxième chose, c'est aller demander de l'aide. Il y a de l'aide qui est disponible. Les organismes communautaires sont là. Ils sont sur place, sont là. Il n'y a pas de temps de liste d'attente là, dans les organismes communautaires. On reçoit l'aide rapidement, mais encore faut-il la demander. Et on essaie de l'offrir. Mais si les gens ne se reconnaissent pas, bien évidemment, ils ne se reconnaissent pas. Donc, ils ne pensent pas que ça leur est adressé. Donc, il faut vraiment que ça aille ensemble. Reconnaître, demander de l'aide. Puis ensuite, ben, peut-être, on parle au public en général, ben, offrir votre aide aux proches aidants que vous connaissez aussi. Là. Donc, parfois, évidemment, là, c'est difficile avec les bulles, avec le fait qu'on ne peut pas aller visiter les gens, tout ça, mais on peut toujours appeler quelqu'un, on peut toujours aller, quand on fait ses courses, on peut acheter quelque chose pour quelqu'un, le mettre dans un sac, le laisser sur le balcon. Tu sais, il y a des moyens aussi d'alléger le fardeau du proche aidant là, quand on est quelqu'un de la famille, un voisin, un ami. Donc, il y a moyen aussi là, d'aider de cette façon-là les proches aidants. Là.
Oui, parce qu'il y a un essoufflement aussi. Hein.
Tout à fait. Oui, parce que les proches aidants, ils sont comme tout le monde. En fait, eux aussi sont en télétravail. Eux aussi, ils sont angoissés par ça. Eux aussi, ils hésitent à faire entrer des gens chez eux, dont des fois le personnel de la santé qui veut les aider, mais là, on ne sait pas, ils ne sont pas vaccinés. Tu sais, il y a toutes sortes. Ils ont les mêmes problèmes que tout le monde, mais en plus, ils prennent soin de quelqu'un d'autre. Donc, ils ont aussi la crainte pour la personne. Ils ont peur de contaminer leurs proches, ils ont peur que cette personne-là soit malade, ils ont peur eux-mêmes d'être malades parce qu'ils se disent « si moi je suis malade, qui va s'occuper de mon proche? » Donc, il y a tout ça qui s'ajoute là, pour ces gens-là, encore en plus de ce que tout le monde, on a nous aussi comme crainte ou comme difficulté en ce moment.
Oui, la pandémie repose difficilement sur beaucoup d'épaules et encore plus sur leurs épaules.
Hein. Oui, tout à fait.
À elles et à eux. Donc, merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Sophie Etier, chercheuse et professeure titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, et de Magali Dumas, directrice générale adjointe de l'appui pour les proches aidants. Merci.
Merci à vous de parler des proches aidants.
Et puis peut-être, rappelez-nous, Madame Dumas, les numéros de téléphone, celui peut-être de l'appui et de la ligne.
Oui, donc pour la rejoindre par téléphone, c'est 7 jours sur 7, de 8h à 20h le soir. C'est le 1-855-852-7784. Donc, si vous avez des enjeux, un petit coup de pouce pour se reconnaître aussi, pour faire écho à ce que le professeur Etier a dit. On attend votre appel.
Répétez le numéro de téléphone.
Absolument. Donc, le 1-855-852-7784.
Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions au cours de la semaine. Vous pouvez aussi le faire sur le site de l'agence Science Presse à sciencepresse.qc.ca. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si vous l'avez aimée, partagez-la. En attendant, bonne semaine, portez-vous bien. Jing Zhaohua est un chercheur typique.